们。
阿门呐。
走吧。
Dieu vous bénisse. Prions. C'est vrai, Seigneur, dans les temps difficiles, lorsque nous sommes criblés de toutes parts, nous avons besoin que tu soutiennes notre foi, qu'elle ne défaille pas, qu'elle reste ferme et qu'elle soit solidement ancrée dans ta parole. Nous te remercions ce soir pour le souffle de vie, la force et les moyens que tu nous as donnés pour pouvoir nous retrouver en ce lieu où l'on te célèbre, où l'on célèbre ton saint nom, où l'on écoute ta parole, où l'on te loue et où l'on répand nos cœurs selon nos besoins. Une maison de correction, lorsque tu nous corriges, nous tournons nos cœurs vers toi, te demandant pardon. Et veuille nous pardonner du haut des cieux, pendant que nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Inspire ta parole ce soir. Sois au milieu de nous, s'il te plaît, selon ta promesse. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Eh bien, tardé, nous allons lire dans Juges. Chapitre 6. Versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, fils de Joas, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous êtes le plus pauvre en Manassé, n'en faites pas un complexe. Si vous êtes le plus petit de votre famille, n'en faites pas un complexe. Dites amen à ça. Israël était le plus petit de toutes les nations à l'époque. Deutéronome 7. verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Dites amen à ça. Vous savez, c'était le moindre de tout le peuple, mais Rahab dit à Josué, elle dit ceci dans Josué 2, elle dit aux espions, pardon, dans Josué 2, verset 8, « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » La terreur que vous inspirez nous a saisis. Vous êtes peut-être le moindre de tous les peuples, mais vous nous terrifiez. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Amen. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et c'est lui qui fait la différence. On intitulera le sujet ce soir, « Le plus petit de la maison de mon Père ». Ça peut être petit en taille, ça peut être petit en notoriété, en intelligence, que sais-je. Que vous soyez le plus petit, en fait, pas un complexe. Peut-être qu'à la maison, on vous considère comme étant le plus petit. C'est à toi d'aller moudre le grain. Dites amen à ça. C'est à toi d'aller garder le troupeau. C'est à toi de descendre les poubelles. C'est à toi de faire ceci ou cela. On vous considère comme le plus petit de tous, à qui on donne les basses besognes. Mais tant que Dieu est avec vous, vous êtes différents. Et Dieu n'a pas consulté le plus grand de la maison de son père. Dieu a consulté le plus petit. Et Dieu l'a appelé vaillant héros. Israël avait abandonné l'Éternel. Et ils étaient dans une situation compliquée. Si on lit les 6 premiers versets, ils étaient malheureux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Imaginez, ce peuple qui est le moindre de tous les autres, ce peuple qui a terrassé Sihon et Og, ce peuple qui a terrassé Pharaon avec toute son armée, ils étaient entre les mains de Madian. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Chaque année, tout était à recommencer. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. N'oubliez pas, quand vous marchez de victoire en victoire, c'est parce que l'Éternel est avec vous. S'il n'est pas avec vous, vous pouvez vous considérer aussi fort que vous voulez. vous n'y arriverez pas. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu, et il est descendu. Il n'est pas descendu chez le mieux entraîné, il n'est pas descendu chez le plus grand, mais il est descendu chez celui qui connaissait l'Éternel, comment il avait marché avec son peuple. Il se souvient, il sait que lors de la sortie d'Égypte, Dieu avait fait beaucoup de miracles. Et il savait que si l'Éternel est avec eux, il devait y avoir des miracles. Si l'Éternel est avec nous, où sont ces miracles, n'est-ce pas? Et le plus petit de la maison de mon père, il ne faut jamais nourrir ce complexe. Amen. La réponse de Gédéon, Gédéon dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Ouais. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce que Dieu s'est-il trompé dans le casting pour trouver quelqu'un afin de délivrer Madian, de délivrer Israël de la main de Madian? Non. Celui qu'il fallait, c'était bien Gédéon. L'histoire de Gédéon, quand il dit qu'il est le plus petit de la maison de son père, ça me rappelle un peu David. Dieu dit à Samuel, va oindre le fils d'Isaïe. Il ne lui dit pas lequel. Isaïe en avait 8 des fils. Il ne lui dit pas lequel. Il dit, va oindre le fils d'Isaïe. Là-bas, il y a un homme selon mon cœur que j'ai choisi pour être roi. Et il dit tout cela parce que j'ai rejeté Saül. Saül a désobéi. Je lui ai demandé de ne pas épargner Amalek, il a épargné. Je l'ai rejeté. Et Saül, quand Israël a exigé, a demandé à avoir un roi comme les autres nations, Dieu leur a choisi un roi selon les critères humains. Parce que les hommes aiment avoir un roi imposant. N'est-ce pas? Et Saül était bien l'homme, pour Israël, était bien l'homme qu'il fallait. Quand Dieu l'a désigné comme roi, personne n'a discuté en Israël. Ils ont tous été soumis directement à Saül. Dans 1 Samuel 9, verset 1er, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjamite, donc de la tribu de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc, quand vous regardiez Israël en foule, là, sur une plaine, eh bien, non seulement il était beau gosse, oui, mais en plus, sa tête surpassait toutes les têtes. Ça, c'est le roi qu'il nous faut. Et Dieu leur a dit, voici votre roi. Et ils ont été contents. Ils en ont été heureux et ce que Saül disait, il le faisait. Saül provoquait, il déclarait la guerre quelque part, il le suivait. Et il allait de victoire en victoire. C'est le roi qu'il nous faut. Et maintenant Samuel, quand il a eu cette mission d'aller oindre chez Isaïe, un de ses fils, Samuel arrive là-bas, sur le 8, qui ça? Isaïe n'en choisit que 3. Certainement, les 3 plus vigoureux pour les faire passer devant Samuel. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que Samuel aussi pleurait, le prophète. Il disait, Seigneur, pourtant, c'est un bon roi. Il protège bien ton peuple. Il se bat bien. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, de nom de Juda, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ok. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Parce que Saül, ça lui est monté à la tête. Personne d'autre que lui ne pouvait être roi. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, c'est heureux. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Il a dû le regarder. Il en a imposé. Il dit, c'est certainement lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à la hauteur de sa taille. Il est peut-être le plus grand de toute la maison. Amen. Mais ce n'est pas lui que j'ai choisi. Car je l'ai rejeté. Oh, lui aussi, tu l'as? Oui, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab. Abinadab vient, je crois, le pauvre Isaïe devait être désolé, voyant que son fils aîné est rejeté. Isaïe appela Abinadab, il dit bon, même le deuxième c'est pas mauvais non plus, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Or, il se gratte la tête. Shama, viens ici. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. On en est trois. J'en ai huit. Eh ben, prends le quatrième. Le quatrième vient, Dieu l'a rejeté. 5, 6, 7. Isaïe fit passer 7 de ses fils, donc. Donc 4 après Eliab, Abinadab et Shama, il fait passer les 4 autres. Et il délaisse le 8e. Il fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Oh, les voies de Dieu sont insondables. Puis, Samuel, tant que prophète, il s'est dit, Dieu ne peut pas se tromper. S'il m'a dit, c'est dans la maison d'Isaïe, c'est dans la maison d'Isaïe. Il doit y avoir Il doit y en avoir encore un. Alors il pose la question. Sont ceux-là tous tes fils? Bah, écoute, il y en a un, ça ne sert à rien que je te l'amène. Il est juste bon à garder le troupeau. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. C'est tout ce qu'il sait faire. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lassons pas avant qu'il ne soit venu ici. Vous savez, quand il y avait guerre et qu'Isaïe devait envoyer ses enfants à la guerre, il n'envoyait que ses trois premiers. Parce qu'il savait que c'était des combattants. Dans 1 Samuel 17, on voit verset 13, les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shammah. Les autres, Isaïe ne faisait pas beaucoup cas d'eux. Mais ces trois-là, c'était ceux qui comptaient pour Isaïe. Et même une fois en guerre, il va s'inquiéter de ces trois-là. Et il ne va pas envoyer le quatrième pour aller leur apporter à manger. Il va envoyer le plus petit. C'est vrai, quand ils sont en campagne de guerre comme ça, ils ne mangent pas bien. Apporte-leur le foufou que maman a préparé. Apporte-leur la viande qu'ils aiment, que maman a préparée. Moi, oui, toi. Et pourquoi pas les autres? C'est toi. L'homme a tout faire, c'est toi. Il pouvait dire, mais papa, je suis un roi. Puisqu'il a été roi. Je suis le roi. Son père, il n'en faisait même pas attention. Ce n'était pas son problème. C'était le roi d'Israël qui l'envoyait. Vous êtes roi. Hein? Votre papa, devant votre papa, vous êtes roi. Papa, c'est à la maison. Mais une fois dehors dans la nation, votre papa vous appelle sire. Yes. Isaïe n'était pas roi. C'était des rois, que Dieu oignait. Alors, quand ils sont les trois guerriers là, Eliab, Abinadab et Shammah, arrivent en pleine campagne de guerre, ils se retrouvent devant un problème sérieux. De l'autre côté, en face, il y a un homme encore plus imposant que Saül. Saül dépassait tout Israël d'une tête, mais celui d'en face, il dépassait toute la Philistie de je ne sais combien de têtes. Et il dépassait aussi pas mal ceux d'Israël. Et il dépassait aussi ceux d'Israël. Et Saül y compris. Et certainement ce jour-là, Saül a regretté d'être le plus grand de tout Israël. Parce qu'étant le plus grand, il est le plus visible. Et en plus, il est roi. Personne ne peut se cacher, se mettant devant lui. Il est plus grand que celui qui est devant lui. Amen. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, verset 1er, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Soko appartenait à Juda. Vous savez, Saül aurait pu abandonner le combat, parce que ce n'était pas son territoire. Saül était benjamite. Mais ici, c'est Juda. Donc les fils d'Isaïe devaient quand même faire quelque chose. Parce que c'est leur territoire. Eh bien, Eliab, Abinadab et Shammah aux abonnés absents. Alors, Goliath qui sort de là-bas, mais vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Qui l'a mesuré, je ne sais pas. Mais on voyait bien qu'il était très grand. Et plus son armement qu'il avait. Et Goliath va lancer le défi. Verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. » Et nous nous battrons ensemble. Vous imaginez aujourd'hui, vous êtes des gens paisibles, vous et moi. Nous ne sommes pas belliqueux. Nous ne menons pas des guerres de religion. Nous ne, comment dirais-je, nous ne convertissons pas les gens de force. Nous cherchons la paix.
Amen.
On nous a dit aussi, si on vous gifle sur la joue gauche, tendez la droite. Nous semblons si faibles. Alors, ce démon qui nous tracasse, qui est devant nous, qui se pointe devant nous, et il dit, écoutez, ça ne sert à rien qu'on se batte. Vous avez perdu d'avance. Envoyez-moi un homme. Un. Et nous avons cet homme. Il n'avait rien pour plaire.
Amen.
Ouais. Il était semblable à une faible plante. Ouais. Pendant que ce démon lance ce défi, donnez-moi un homme, nous a. David, fils d'Isaïe, il est mort. Mais cet homme-là, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Et de cette faible plante, de celui qui a apparu comme une faible plante, comme abandonné de Dieu, eh bien, c'est le Dieu Tout-Puissant. Satan, quand il a vu grimper sur la montagne dans le désert, Satan l'a dit, celui-là, je vais en enfer une bouchée. Et Satan l'a suivi. Il a regardé. Toi, tu es vraiment fils de Dieu, toi. Si tu es fils de Dieu, saute. Il paraît que vous avez des anges. Et les anges vont te retenir. Si tu es fils de Dieu, tu as faim. Cette pierre-là, transforme-la en pain. Parce que moi, j'étais précipité d'en haut. Je sais que Dieu peut faire ça. Alors si tu es fils de Dieu, fais-le. Ne soyez pas complexé devant Satan. Vous êtes plus fort que Satan. Et tout ce beau monde-là, Eliab, Abinadab, Shammah, Saül, tous ces gens imposants qui étaient là, eh bien, se sont retrouvés devant Goliath, impuissant. Ce n'est pas la taille qui fait la différence. Ce n'est pas non plus le coffre que vous avez qui fait la différence. Vous savez, je me souviens une fois il y a très longtemps, on avait cru. Et quand on avait cru, on était dans une réunion de prière. Et Satan est venu, il a commencé à agiter les enfants de Dieu. Et une sœur s'est levée pour une question de prophétie, une fausse prophétie. Elle a commencé à lancer sa prophétie. Alors, pratiquement tout le monde a remarqué que cette prophétie ne tenait pas. Alors, ouais, vous entendez déjà, Satan sort, Satan sort. Et puis, à un moment donné, une voix retentit. Satan sort de ma sœur. Et la sœur ne tombait pas. Vous savez quoi? La sœur est tombée de peur. Ah, parce que elle a continué après. Satan n'est pas sorti, mais tout le monde croyait, enfin, surtout l'autre qui avait prié, il pensait que c'était Satan est parti à cause de sa voix. Vous savez, Satan est parti ici dans le désert. Jésus n'a pas crié. Satan lui a dit, il est écrit que Jésus a dit, il est aussi écrit, vérifie. Dites amen à ça. Ah. Oui, je l'ai eu du premier coup, celui-là, ça pose problème. Il est écrit que, il est aussi écrit. Et Satan est parti. Ce qui fait, je vous dis ça parce que, Abraham dit, le plus petit de chrétiens, sans don particulier. Jésus n'a fait jouer aucun de ses dons. Il pouvait l'envoyer directement en enfer. Il lui a juste dit, il est écrit. Le plus petit des chrétiens, il est plus fort que Satan. Donc, ne négligez pas l'arme que vous avez entre vous. La parole de Dieu, c'est réellement ceci. Hébreux 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand je vous disais dimanche que votre veste que vous avez achetée à l'avenue Louise ne vous couvre pas, c'est une feuille de figuier, c'est une ceinture de feuille de figuier devant Dieu. Donc, vous pouvez être le plus petit des chrétiens sans aucun don. Vous n'avez pas le don de chasser les démons, mais vous êtes capable de mettre une armée de démons en déroute. Parce que Dieu vous a équipé de manière à mettre tous ces démons-là en déroute. Vous êtes équipé. C'est pourquoi un homme, une femme de foi, c'est quelqu'un de très costaud. Il est le boss, comme dit le frère. Il est le boss. Quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Ne regardez pas la taille du combat. Regardez à la taille de celui qui vous envoie. Il vous a laissé dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Mais ces loups-là, ils ont fort à faire devant des hommes et des femmes de foi. Éphésiens chapitre 6. Regardez comment Dieu les a équipés. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, regardez, la lutte. Elle risque d'être, si à première vue comme ça, elle est comme si c'était disproportionné. Hein? On doit combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, Dieu, pour combattre ces gens-là, il ne regarde pas à votre taille. Vous savez, si on regarde à votre taille et qu'on vous donne les armes comme on a donné à David pour aller combattre Goliath, le casque était trop grand. Ça pouvait l'empêcher de voir devant lui. Gloire à Dieu. La lance qu'on voulait lui donner pour aller combattre Goliath était trop lourde pour lui. Amen. Cette lance-là, elle est trop lourde pour vous. Le bouclier qu'on va vous donner pour aller combattre Goliath, c'est trop lourd pour vous. Dieu a un bouclier pour vous. Dieu a une épée pour vous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme.
Amen.
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Ça tient toujours. Un mensonge ne tient pas. À un moment donné, vous allez oublier. Mais si vous dites la vérité, vous direz toujours la même chose.
Amen.
Un mensonge, un jour, vous allez changer la version. Amen. Et à vos reins, la vérité pour ceinture. À ce moment-là, pardon, le démon du mensonge, il s'en va. Vous avez cette ceinture-là, le démon du mensonge, il fuit loin de vous. Il ne veut plus que je continue. Faut pas nous prier à sa volonté, n'est-ce pas? Revêtez la cuirasse de la justice. Pardon. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Soyez zélés. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Noah termine la lecture.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Il croyait qu'on allait se taire. Il y a plusieurs bouches ici.
Amen.
Maintenant, si ça attrape Noah, il y a un autre fiston ici. Il y en a encore un là. Il y a même une sœur peut lire ça. Si on vous dit qu'une sœur ne peut pas lire, ce n'est pas vrai. Elle peut lire si on lui demande de lire. Tu as lu jusqu'où? Non, 17. Alors, il faut lire le 18 aussi, fiston. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Amen.
Ce qui fait la différence, c'est Dieu. C'est l'Esprit. Ce que Dieu donne, ce que Dieu fait avec le plus petit. Paul disait, il était le moindre des apôtres. Mais regardez le travail que Dieu a fait au travers de Paul. Paul disait qu'il était le moindre de tous les saints. Éphésiens 3. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, regardez, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Il vous suffit d'être bien équipé. Et nous sommes bien équipés. Car ces armes que Dieu nous donne dans Éphésiens 6, elles sont pour nous. Et David dit, au moment d'aller combattre Goliath, David dit, en fait, puisque Saül lui dit, tu n'es encore qu'un enfant. David dit, quand j'ai combattu l'ours et le lion, l'Éternel était avec moi. C'est la présence de l'Éternel qui fait la différence. Vous savez, Gédéon dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je suis le plus petit de la maison de mon père. Dieu lui dit, je serai avec toi.
Amen.
Et c'est ce qu'a fait, ce qu'a rendu Gédéon le vainqueur. Ça l'a rendu très fort, plus fort que Madian. Et d'ailleurs, pour combattre Madian, il croyait qu'il avait besoin de 30 000 hommes, 32 000 hommes. Dieu lui dit, non. Je ne t'ai pas dit, je te donnerai de nombreux guerriers. Non, je t'ai dit, je serai avec toi. Ils sont trop nombreux. Ils risquent de dire, c'est grâce à nous. Allez, va leur prêcher. Sujet d'aujourd'hui. Que celui qui est craintif juge 7. On va lire ça. Soyez sans crainte. Verset 1er. Jéroboam, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Quelle ta main ? Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif n'ait pas peur, n'ait pas honte. Que celui qui est craintif et qui a peur, s'en retourne. Parce que le combat fait rage. Hein? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. Oui. Ils viennent, ils nous criblent. Le combat est grand. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en resta 10 000. Gédéon a dû les compter. Il voit l'assemblée se vider. Il dit, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Il en reste 10 000. Au lieu de garder les 10 000, non. Dieu dit, c'est encore trop. Mais Seigneur, la foule se situe. Non, pas de foule. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi.
Amen.
Dieu connaît ceux qui sont courageux. Jésus disait toujours, prenez courage. Que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. » 33 200. Moins 300, ça fait à peu près 29 900 hommes qui sont partis. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Vous avez d'un côté Madian avec des milliers d'hommes, d'un côté une petite armée de 300 hommes pour aller combattre. Avec la plus petite des choses, Dieu peut faire de grandes choses. Avec le plus petit des chrétiens, Dieu est capable de faire de grandes choses. Ne vous considérez pas comme trop petit. Tant que vous croyez en Dieu, Dieu a quelque chose à faire avec vous. Et même quelque chose de grand. Parce que vous, vous dites que c'est grand. Ce que Dieu considère comme étant grand. Il dit à Nathanaël, tu verras des choses encore plus grandes que celles-ci. Oui. Donc, l'Éternel dit à Gédéon, je serai avec toi. Et c'est Dieu qui, en étant avec eux, a fait la différence. David, lorsqu'il avait à affronter le lion et l'ours, il avoue que c'est Dieu qui a fait la différence. 1 Samuel 17. Verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, quel est ce Philistin qui vient défier l'armée du Dieu vivant, c'est un circoncis. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Saül dit, allez le chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin.
Amen.
Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ça, c'est dès ma jeunesse. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je ne regardais pas ma petite taille. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je semblais petit devant lui. Mais je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, ouais, c'est l'Éternel qui m'a délivré. Ce n'était pas moi, David. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Mais quand il le dit, Saül, est-ce qu'il le dit par conviction ou bien est-ce une formule que nous utilisons toujours? Que le Seigneur soit avec toi. Parce que si vous en êtes convaincu, s'il est avec David, il peut aussi être avec moi. C'est notre Dieu à nous tous. Il n'a jamais dit « Je ne serai qu'avec David ». Hein, il pouvait dire « Ah bon, Dieu a fait ça, l'Éternel a fait ça ». Mais oui, ça a eu Dieu, l'Éternel. Ben, si l'Éternel a fait ça avec toi, oui, il fera ça avec moi aussi. Amen. Je vais y aller. Amen. S'il y était allé, je suis sûr, Dieu l'aurait délivré de Philistins. Ne soyez pas là toujours à envier les autres. Au moins lui, Dieu agit avec lui. Dieu peut agir avec vous aussi. Il est Dieu pour nous tous. J'ai prié pour telle personne parce qu'il était malade et tout. Elle était malade et tout. Vous pouvez prier aussi. Si Dieu a entendu la prière de frère Branham, devant tel problème, il peut aussi entendre la mienne. Je ne suis pas prophète, je ne demande pas à prophétiser. Je ne demande pas à être prophète. Mais si il dit ceci, sans citer de nom, allez par toutes les nations, faites des disciples et annoncez-leur la bonne nouvelle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce que vous avez cru ou pas? Si vous avez cru, ce sont des miracles qui vous accompagneront. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu. Si vous êtes défaitiste, vous allez dire, c'est fini avec les apôtres. Ce n'est pas fini avec les apôtres. Si vous êtes défaitiste, vous allez marcher partout. Malachi 4 a fait ci, Malachi 4. Mais non, Malachi 4, c'est bien. Mais vous aussi, aujourd'hui, vous bénéficiez de ce ministère. Vous aussi, vous avez entendu aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous aussi, vous avez entendu aujourd'hui qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne fait point exception de personne. Ah, Jésus-Christ nous a promis également, si on le croit, on dira Amen, Matthieu 28, il nous a promis ceci. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez ceci. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comment délivrerai-je Israël de la main de Madian? Je suis le plus petit. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et non seulement il dit cela, il dit non seulement avec vous, mais je suis même en vous. Jean 14. Verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Vous n'êtes pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et maintenant, pendant qu'il est en vous, toujours Jean, il dit, eh bien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit qui doit être en vous. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, ne regardez pas votre petitesse. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et si vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous êtes plus fort. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur de celui qui vocifère dehors. N'ayez pas peur de lui. Même de la mort, la mort est dans le monde. N'ayez pas peur de la mort. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Sa victoire, il nous l'a donnée. Prions le Seigneur. Je suis peut-être le plus petit dans la maison de mon Père. Je suis peut-être le moins instruit dans la maison de mon Père. Je suis peut-être le moins considéré dans la maison de mon Père. Mais si Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre. Et je vais avec, oh Dieu, avec courage, j'affronte le monde, sachant combien je suis bien équipé, sachant que ce qu'il me faut pour combattre, tout est à ma portée. Or, je peux être le plus petit des chrétiens, mais je n'ai pas à avoir peur du maître de ce monde. Tout ce que je peux faire, c'est marcher ayant cette confiance en lui, que lui est avec moi selon sa promesse, car il a dit, je serai avec toi tous les jours. Tous les jours, il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Bien sûr, il y a des montagnes, il y a des vallées. Bien sûr, il y a des moments difficiles. Il y a des moments moins difficiles. Mais quoi qu'il en soit, c'est David qui disait, « Je ne craindrai aucun mal. Partout où j'irai, car lui est mon berger, c'est lui qui me conduit. Et il ne me conduira pas dans la fosse. Il me conduira au travers de ses chardons, de ses épines, mais je sais que j'en sortirai vainqueur. Tout cela est encore pour me former. C'est encore pour me conduire. C'est pour faire de moi un véritable témoin de sa toute-puissance. Cela est valable pour chaque frère présent, chaque sœur présente. Que le nom du Seigneur soit loué. Pendant que les Madianites nous dépouillent, nous ne perdons pas courage. Nous gardons cette confiance en Dieu. Que lui, il viendra toujours à notre secours. Que son nom soit exalté. Car il nous a laissé un nom qui est plus grand que tout autre nom, devant lequel tout genou doit fléchir. Ce nom merveilleux et par lequel nous prions ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu donne à chacun selon les besoins de son cœur. Que Dieu vous bénisse.